Je passe immédiatement la parole pour cette conférence, ce propos qui vient introduire le table monde à Jean-Jacques Israël, professeur de droit public, doyen de la faculté de droit de l'Université Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne. C'est à
vous. Merci. Je me demande si mon propos ne va pas être un peu décalé. Parce que je vais partir de cette formule que Vedel avait inventée pour écrire au ministre de la Justice et au ministre chargé de l'enseignement supérieur quand il s'était agi de définir à la fois la consultation juridique, mais aussi les enseignements du droit dans les facultés ou ailleurs. Donc, ces formules, beaucoup ici s'en souviendront. Le droit mène à tout, c'est ce qu'on disait à la guerre. Tout mène au droit aujourd'hui, sauf l'enfer. Je dois dire qu'il avait convaincu les ministres de faire un tout petit peu attention à ce qu'ils allaient faire à l'époque. Et ça a donné un texte un peu compliqué. Et si je me sens un peu décalé, c'est parce que je vais partir de la loi, complétée par la jurisprudence, pour poser le problème. Je suis désolé, ce côté très iconoclaste de la méthode juridique. On a cherché tout à l'heure à définir le juriste, et on en a donné plusieurs. Et on a manifestement de la peine à dire ce que c'est. Alors, dans d'autres métiers, ne sachant plus comment définir ce qu'est la psychanalyse, le psychanalyste a dit « je m'autorise de moi-même ». Enfin, un psychanalyste a dit ça, assez connu, pas aussi connu que Vedel dans le domaine de sa science. Le législateur n'en a pas décidé ainsi. Le législateur a organisé les professions, ça je n'ai pas besoin de le dire, mais il a surtout défini un périmètre de la consultation juridique et de l'exercice illégal du droit. Il faut donc considérer que l'article 54 de la loi du 31 décembre 1962 modifié donne le ton de ce qu'on doit penser en matière de du juriste. Et le législateur, dans sa grande sagesse, a considéré que nul ne pouvait donner de consultation juridique s'il n'était titulaire de la licence en droit. Ah, licence en droit. Il a prévu aussi un certain nombre d'exceptions qui ont justement donné lieu à la jurisprudence à laquelle je vais faire maintenant allusion, en pensant que la réflexion que le juge a eue sur la question qui lui était posée et la réponse qu'il a donnée permettent peut-être de guider vers la question qui nous est posée et peut-être certains éléments de réponse. Dans un arrêt de ce qu'on appelait avant la première chambre de la Cour d'appel, rendu le 18 septembre de cette année, sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, et dans un contexte qui était assez marqué autour de la loi du 31 décembre 71 modifiée, puisqu'il s'agissait de savoir si les professions non réglementées pouvaient exercer les droits à titre accessoire dans un certain nombre de domaines, notamment en matière d'économie de coûts sociaux. Après une très longue bataille jurisprudentielle et après un arrêt de cassation de la Cour de cassation qui orientait les choses, la Cour d'appel de Paris a considéré que le système de réglementation de l'exercice du droit était compatible avec le droit communautaire, puisque c'était la critique la plus nette sur l'ensemble du dispositif, dans des termes que je crois il est bon de citer. Il y a trois lignes. Là, je résume, la réglementation est justifiée par l'impérieuse raison de l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services concernés. Dans la mesure où le droit qui n'est pas assimilable à une banale activité de prestation de service doit être exercé par un professionnel présentant les qualifications professionnelles et morales nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi. Je pense que cette phrase exprime un petit peu en décalé par rapport à ce qu'on a entendu, notamment des notions de marché du droit, qui sont issues en fait de la notion de droit du marché. Cette citation pose, me semble-t-il, bien la question de savoir si on peut former des juristes sans respecter un certain nombre de règles. Alors, poser la question à un moyen de faculté de droit de savoir où on doit enseigner le droit, bon, ça ne met pas le moyen dans une position très compliquée. Certains diront pas très facile, mais en fait non, moi je trouve que ça ne le met pas dans une position très compliquée, et la réponse ne retiendra pas longtemps l'attention, évidemment, dans les facultés de droit. La question est un peu plus compliquée que ça, autrement nous ne serions pas réunis ici. C'est qu'il y a une tentation et une réalité de dispersion de l'enseignement juridique et des lieux. On a rappelé un certain nombre d'exemples, et des lieux de l'enseignement juridique. Cette dispersion, elle pourrait, elle devrait même s'analyser longuement. Et ça, je ne le ferai pas. Je me contenterai de partir, avant de poser deux, trois questions et d'y répondre assez rapidement, de partir de l'attrait que le droit représente dans le champ social, une banalité, mais qui se retrouve, cet attrait, dans les disciplines non juridiques, dans les lieux non juridiques, avec des conceptions qui sont parfois, je dirais, parce que nous sommes à l'oral, parfois assez fantaisistes. Le problème qui devrait être analysé en détail est celui de savoir ce qu'est le droit. Ça, évidemment, ce n'est pas ici que je vais pouvoir en dire même quelques mots sensés. Mais se poser la question de ce qu'est le droit, c'est tout de suite comprendre qu'on n'est pas dans l'illusion de l'attrait que le droit exerce dans le champ social et dans les autres disciplines, quelles qu'elles soient. Quand on est, comme je le suis, dans une université pluridisciplinaire, on voit bien le regard porté par les littéraires, les scientifiques, les médecins, que sais-je encore, sur le droit. Et l'illusion que nos collègues ont de ce qu'est l'enseignement du droit et de ce qu'est simplement le droit. Et le risque, c'est qu'on remplace cet enseignement difficile, long et patient, qu'on le remplace par une sorte de vernis juridique. Faites un cours de droit au médecin. C'est la dernière mode, on l'a citée tout à l'heure, mais elle est caractéristique. En réalité, il s'agit de récupérer dans les facs de droit les reçus collés au mieux de la première année de médecine, mais je n'ai pas besoin de dire que les urbanistes veulent un cours de droit d'urbanisme, que quand un projet de recherche est lancé pour savoir comment on va créer des voies souterraines, ça intéresse essentiellement les techniciens, et puis on dit « ah oui, mais il faudrait peut-être un juriste aussi ». Ça, c'est une déformation qui menace en réalité la qualité du. Alors vous allez me dire, mais on s'écarte du propos, où est la question du lieu? La question du lieu, elle est directement liée à la nature même de l'enseignement juridique et des nécessités de l'enseignement juridique pour former un juriste. Puisque je crois que la question, c'est comment former un juriste. C'est pas où enseigner le droit ou comment enseigner le droit, c'est comment former un juriste. Alors, je vais prendre deux exemples et très vite, et j'essaierai d'en tirer des conclusions. Deux exemples qui sont la réponse à deux questions, enfin qui sont un exemple de réponse à deux questions. Peut-on former des juristes dans une grande école ? Peut-on former des juristes dans une école d'application ? Alors je prendrai deux exemples, pardon, que je connais peut-être un peu mieux que d'autres. Pour la grande école, je dirai un mot de l'école normale supérieure, pour avoir en quelque sorte essuyé les plâtres de ce qui était l'attrait pour le droit. Une directrice se tourne vers un professeur de Paris 1 en disant « Nous avons besoin d'un cours de droit, nous avons besoin de droit à l'école normale supérieure. » Ce qui est quand même assez paradoxal, puisqu'on enseignait tout dans cette école, même la science politique.
Mais c'est pas grave, je ne dis pas la science politique, mais il y en a dans la science
politique. Enfin, il y avait quelqu'un qui, dans le laboratoire, était censé en faire. Le laboratoire était dirigé par Baudelot. Je vous ai laissé m'interrompre, mais vous allez voir la suite. Vous avez vu que je vous ai laissé m'interrompre. Donc, le directeur du laboratoire était Baudelot. Il était assisté par deux collègues éminents, dont l'un, Daniel Collet, économiste, mais l'autre est Frédéric Matonti. Donc, je vous laisse apprécier la portée de mon propos, puisqu'elle est professeure de sciences politiques. Donc, on enseignait tout, on préparait également à l'ENA, mais on ne faisait pas de droit. Donc, il fallait faire du droit. Le directeur ou la directrice de l'époque a été remplacé au moment où je suis arrivé par un directeur qui m'a accueilli en me demandant un petit peu ce qui allait se passer. Il me dit « Oui, on a besoin de droit parce qu'il était scientifique. Il disait « Il faut qu'on sache comment on réglemente les brevets. » Alors, je lui ai dit que c'était une question très intéressante, que malheureusement j'étais publiciste et que donc je ne parlerai pas de brevet, mais que j'essaierai quand même d'accompagner la formation des élèves qui voudraient avoir un référent. Je ne dis pas comment on appelle les référents à l'école supérieure. Un référent, un tuteur en fait, pour faire du droit. Et une petite équipe de 10 à 15 élèves, c'est vrai, ce qui est énorme. À l'école normale supérieure, quand il y a trois élèves qui suivent un tuteur, c'est déjà pas mal. Donc, il y avait vraiment un attrait. Ce que je veux dire par là, c'est deux choses. La première chose, c'est que dans le groupe des 15, on essaie d'en faire l'inventaire tout à l'heure avec Katia Valdefebvre, qui était dans le groupe, on a au moins 5 ou 6 professeurs et maîtres de conférences des facultés. Et la deuxième chose qui illustre la précédente, ou plutôt la précédente illustre la règle que je veux dire, c'est que dans ce cénacle de l'école normale supérieure, les élèves font autre chose ailleurs. Et donc, ils ont été faire du droit dans les facultés de droit. Et il est évident que je n'ai pas formé des juristes à l'école normale supérieure, mais j'ai formé des élèves qui ont pu faire du droit et aller loin dans le droit et dans son enseignement ou dans sa pratique, même référence que précédemment. C'est un premier type, peut-être de modèle, en tout cas d'exemple. La deuxième question, c'est peut-on former un juriste dans une école d'application ? Alors, j'aurais parlé de l'École nationale de la magistrature, j'avais eu la chance d'être au comité pédagogique, mais je ne le ferai pas, parce que son directeur le fera mieux que moi. Et j'ai choisi l'École des avocats, parce qu'en même temps que j'enseignais à l'École normale supérieure, je dirigeais l'École de Barreau, ce qui fait que mon voisin de gauche va considérer que c'est un monstre sur le plan du canon qu'il a essayé de nous faire passer tout à l'heure. Je dois dire qu'à l'École des avocats, que j'ai fait rebaptiser par le président qui était maintenant en exercice, donc l'EFB aujourd'hui, école de formation professionnelle des barreaux de ressort de la Cour européenne. C'était mieux que CRFP. Quand, effectivement, j'étais dans cette école, certains se sont étonnés, je n'y avais jamais enseigné. On m'a donc demandé tout de suite de faire de l'école. J'ai refusé. Et quand j'ai quitté ma fonction après le mandat renouvelé qui avait été le mien, je n'ai pas plus enseigné dans cette école. En revanche, j'ai essayé de voir si on pouvait effectivement non pas former des juristes, il s'agit de former des avocats, donc c'est une catégorie particulière de juristes. Je n'ai pas dit que les avocats, je n'ai pas dit que les avocats n'étaient pas des juristes, hein, je viens de dire exactement le contraire. Donc, comment former des avocats qui ont déjà fait du droit et qui donc ont besoin d'apprendre des savoirs pratiques. Et avec le président Lecard, on échangeait quelques propos tout à l'heure justement sur la réforme, et dans la formation, c'est toujours posé la question du caractère pratique de la formation, de ne pas refaire ce qu'on fait dans les facultés de droit, d'apprendre le métier. Il n'empêche que certains étudiants ont besoin d'un complément de formation, dans le nom, sous le nom de projet professionnel, le PPI, et ils peuvent s'inscrire dans une faculté de droit pour suivre un diplôme de N2 quand ils ne l'ont pas déjà, parce qu'ils en veulent un de plus. Donc c'est un deuxième exemple. Et si je me limiterai à ces deux exemples, pour des raisons de temps, ça nous conduit vers quoi ? Ça nous conduit vers cette idée que si on veut former juriste, on a un certain nombre d'exigences à satisfaire. Je ne vais pas le reprendre ici, chacun le connaît. En ce qui concerne le temps, la durée de formation, la progression des savoirs, la nécessité d'enseignements fondamentaux, la nécessité de suivre à la fois des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. Et là, deuxième citation de Vedel, j'en ai une troisième que j'ai oubliée, qui reviendra peut-être tout à l'heure. Deuxième citation de Vedel, et là, il avait pris l'inspiration de Einstein. Je ne connais rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Alors ça met bien les idées en place quand on se demande si on doit faire l'un ou l'autre. Non. C'est un faux débat. C'est un faux débat inventé soit par les théoriciens, soit par les praticiens. Le droit, c'est une discipline à la fois théorique et pratique. Et donc, le juriste doit être à la fois nourri de théorie et préparé à l'exercice d'un métier qui est nécessairement pratique. À partir de là, on a une ligne qui ne conduit pas exclusivement vers les facultés de droit. Cette ligne peut conduire tout à fait à ce qu'il y ait des passerelles, bien sûr, mais aussi des partenariats entre des lieux de l'enseignement différents en fonction des objectifs poursuivis. Autrement dit, quand on se demande où enseigner le droit, la réponse est assez simple. Mais ça n'est pas une réponse exclusive et ça n'est pas une réponse totalitaire, c'est un peu difficile pour les juristes, disons tutélaire. Donc, c'est simplement la nécessité de donner à ceux qui vont faire des recherches en droit, pratiquer le droit, enseigner le droit, cette formation qui est tout à fait particulière. On a beaucoup parlé des médecins. La médecine intéresse directement l'individu. Et donc, tout le monde est conscient de l'importance de la médecine. Le droit, en fait, intéresse éminemment le social, mais directement, au travers du champ social, l'individu également. D'où son attrait. D'où le fait que c'est la première discipline qui attire les étudiants. On a dit 200 000 étudiants. Le référé de la Cour des comptes, qui a quand même porté sur 4 ou 5 grandes facultés de droit, a bien montré quelles étaient les nécessités et les spécificités de l'enseignement du droit. Et je ne cite pas l'exemple de la Cour des comptes par hasard, puisque tout le monde sait que ce n'est pas le NM ou les facultés de droit qui ouvrent à la Cour des comptes, mais c'est l'ENA. Donc, on a pu voir que le regard de ces magistrats, c'est vrai, de la Cour des comptes, était dans le sens du maintien de cet enseignement particulièrement spécifique. Alors, j'aurais pu parler encore très longtemps, mais je pense que c'est tout à fait suffisant. Et je terminerai, pour varier les citations, par le propos du président Brébant, qui avait été à la source de la création de la préfiguration du Conseil national des droits, c'est-à-dire l'association pour la Fondation nationale des études de droit. Et le président Brébant avait eu cette idée parce qu'il avait dit que le mépris du droit coûte cher. Je vous remercie.
Professeur associé à l'université de Versailles. Moi, je lis docilement la feuille que j'ai faite.
Alors, je n'ai pas préparé d'exposé en la forme, car disciplinaire, on m'avait dit qu'il faut plutôt lâcher quelques observations de façon à susciter la réaction et le débat. Donc, si vous m'y autorisez, je prononcerai quelques brèves réquisitions par observation successive. Alors, pour rebondir par rapport à ce qui était dit par ma prédécesseur, qui a après d'ailleurs, dans mon sens, tout dit, et en partant des citations, je compléterai celle que le doyen Israël a faite en disant, oui, j'entendais dire dans mon enfance, c'est le droit mène à tout à condition d'en sortir. C'est une autre manière de dire ce que vous disiez, et à parler de lieu, c'est bien le problème, non seulement de où est-ce qu'on est formé en droit, mais également où est-ce qu'on exerce. Et puis par rapport à, en écho à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que où exercer, où former, comment former, qui former, c'est aussi, c'est finalement le problème de la théorie et de la pratique, comme nous avons déjà évoqué en première partie, avec ce vieux brocard qui est que selon lequel les théoriciens savent tout et ne comprennent rien, et que les praticiens comprennent tout et ne savent rien. Je ne dis pas ce que les gens disent en général de mes collègues magistrats, mais c'est fort désobligeant et parfaitement injuste, vu la qualité de la formation à l'école dirigée par Xavier Roussin. Alors, intérêt majeur de ce colloque, je me permets de le dire au passage, moi, enseignant depuis assez très longtemps, je veux dire, chaque année, quand on commence l'année, on se dit, est-ce que je fais comme avant? Est-ce que je ne vais pas complètement changer le temps de mon cours? Est-ce que ça vaut encore le coup d'aller faire mes 36 heures en amphi, ou est-ce qu'il ne faut pas faire autrement pour réveiller les troupes, pour avoir enfin des élèves réactifs qui auront préparé, enfin, le genre de cours dont on rêve tous avec des gens, des élèves qui font des remarques brillantes dans l'amphi, et puis on essaie d'en prendre la balle. Bon. Et c'est très compliqué. Mais je vois que les choses bougent, et les initiatives d'université dématérialisées, si je puis dire, me semblent vraiment passionnantes, et j'espère qu'on saura tous se remettre en question à cet égard, je tenais à le dire. Alors, où former où former, c'est un tout petit aspect du problème, et comme c'est déjà été dit par Christophe Jamin et par Jean-Jacques Israël avant moi, ça recoupe la question de... du contenu des formations, ça recoupe la question des publics, ça recoupe la question des formateurs, c'est donc le tout. Répondre à cette question, c'est répondre au tout, alors on ne saurait le faire. Essayons donc de catégoriser un peu. Si on s'en tient à la pure question des lieux, la topographie, elle n'est pas neutre, quoi qu'on puisse en penser en première analyse. Est-ce que, d'abord, il faut avoir un enseignement du droit aussi diffus que c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Il y a quand même un nombre de facultés qui n'a cessé de s'étendre. On n'en a pas encore parlé, mais je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'on devrait garder en mémoire. Est-ce que ces annexes de facultés, qui sont peu à peu devenues des facultés à part entière, pour des raisons de proximité, sont toujours justifiés en termes de moyens, en termes de concentration et en termes de, enfin, quelque chose auquel je tiens beaucoup personnellement, de transversalité. La question se pose, les réponses sont complexes et je me garderai bien de lancer le débat dans ce cadre. Au plan institutionnel, est-ce que ça doit être monopolistique ou pas, cette formation? Monopolistique, c'est chez nous, dans les facultés de droit, ou est-ce que d'autres établissements d'enseignement assimilés, comme Sciences Po, ou des établissements privés et non juridiques a priori, sont aussi légitimes pour dispenser cet enseignement. Est-ce qu'au-delà des établissements de formation théorique, facultés, écoles, que sais-je, ce n'est pas à l'inverse chez les praticiens, par un compagnonnage que l'on doit se former. On parle de la médecine tout le temps, et j'ai toujours pensé qu'il y avait une grande parenté à tous égards entre le droit et la médecine. Si on n'était pas filmé, je dirais, ne fût-ce qu'à cause de l'incertitude fondamentale de l'un comme de l'autre, mais il n'en reste pas moins que la formation sur le tas, disait quelqu'un tout à l'heure, est essentielle dans notre domaine. Je le disais un peu avant, le droit, c'est pas compliqué, mais il faudra en faire beaucoup. Je crois que c'est quelque chose qui se vérifie tous les jours. Il y a aussi les parcours, puisqu'on dit où, il y a la formation en France, mais est-ce que la formation à l'étranger, qui est maintenant quand même commune à travers les parcours de formation européens, qui est parfois d'ailleurs critiquée, que Sciences Po a pourtant énormément valorisé avec beaucoup de succès, je pense, quand je vois les élèves qu'on récupère, eh bien, ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'on le fait suffisamment? Et si on le fait, est-ce qu'on le fait de façon, j'allais dire, suffisamment démocratique, c'est-à-dire ouverte à tout le monde, et de façon suffisamment répandue? Est-ce que c'est une possibilité qu'on offre à suffisamment de nos enfants, de nos jeunes, sur le territoire? Et est-ce qu'enfin, ces lieux doivent être des purs lieux de transmission du savoir, ou en même temps des lieux de recherche, des lieux d'exercice clinique, sachant que la recherche en droit reste, comme d'ailleurs la pratique du droit, un travail très artisanal au sens proudhonien du terme, c'est-à-dire que c'est la même personne qui va tout faire toute seule, depuis l'arbre qu'elle va choisir en forêt, qu'elle va abattre, jusqu'au meuble produit fini qu'elle va offrir ensuite au public. Alors, poser les questions topographiques que je viens de poser, c'est y répondre, je crois, en même temps. Les réponses sont souvent évidentes. Mais il est vrai aussi, et comme l'ont dit mes prédécesseurs, que pour répondre à ces questions, il est aussi utile de déterminer l'objectif qui doit être celui d'une formation. Et donc, avant tout, qu'est-ce qu'un juriste, puisqu'il s'agit de former les juristes, avant de savoir où les former, qu'est-ce qu'un juriste, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a un ou des juristes? Et ça, c'est aussi, évidemment, une des conditions de la réponse. Quelle formation? À quelle fin? Une formation complète et approfondie pour faire des ingénieurs du droit, comme je dis toujours à mes étudiants. Les recettes que vous apprendrez là, dans ces cours séquencés en 20 ou en 36 périodes, ce qui s'est aggravé avec l'invention des travaux dirigés à la fin des années 60, et les cours qui sont émiettés, l'enseignement qui est émietté, est-ce que ça c'est suffisant, ou est-ce que pour vraiment maîtriser le droit, il ne faut pas apprendre à le créer, donc mieux approfondir les données fondamentales et les concepts fondamentaux, ce qu'on fait à mon sens, je ne sais pas si je suis légitime de dire devant des collègues.
Parler librement.
Voilà. Bon, oui, c'est vrai, l'université, on est libre. Donc, avec l'autorisation de l'ancien voyage, je dis, oui, je pense qu'on ne fait pas assez de théorie du droit et qu'on devrait en faire beaucoup plus, à mon humble avis, en tout cas. Une formation également spécialisée et technique par rapport à cette. En regard de la formation générale et plus théorique que l'on se doit de dispenser au début des études. Et puis enfin, selon les publics, est-ce qu'il faut s'en tenir à une initiation générale, qui peut être que du saupoudrage, d'une certaine manière, un vernis, comme disait Jean-Jacques Israël, ou une formation technique plus précise pour des gens qui sont juste destinés à appliquer, sans avoir à les recréer, des techniques et pour lesquelles on prévoit des à ce moment-là, une formation permanente qui leur permet d'être tenus à jour, mais on n'attend pas de ces gens-là qui se mettent à jour eux-mêmes. Voilà un peu les problématiques, mais qui supposent, je ne crois pas que ce soit à nous, les universitaires, de répondre à cela, c'est aussi à la société civile, à chaque métier, de dire voilà ce dont j'ai besoin. Et quand on parle d'adéquation de la formation à l'emploi et à la réalité sociale, alors on nous regarde toujours, nous, les formateurs, en disant que faites-vous pour être en phase avec les besoins de la société? Moi, je dis à la société qu'elle nous dise aussi ce qu'elle veut et qu'il y ait une meilleure adéquation de ce côté-là. C'est ce que je dis est une évidence. Alors, au-delà de toutes ces questions, est-ce que donc le lieu de l'enseignement du droit n'est pas une question indifférente, un faux débat, comme on disait? Est-ce que l'important, c'est pas le reste, c'est-à-dire le formateur, quel formateur, quel public, quel contenu, quelle manière d'enseigner, et puis, oserais-je dire, la question des moyens, quels moyens nous donne-t-on pour enseigner, pour diffuser le savoir. Alors, au total, la réponse va être contradictoire, celle que je vais essayer d'apporter. D'une part, je vais dire, je pense que le lieu est indifférent, car la vraie question se situe là où je viens de dire, ailleurs, à travers la réponse à la question du formateur, du public, du contenu, etc. Quels que soient les lieux, en effet, au sens institutionnel, donc plutôt topographique du terme, quels que soient les lieux de transmission de ce savoir, de formation, je crois que ce qu'il faut préserver et peut-être revivifier, c'est un corpus commun et garantir qu'il existe un corpus commun enseigné partout, dans tous ces lieux, un corpus fondamental, de notions fondamentales. Et cela, il doit l'être par des personnes habilitées à le faire, c'est-à-dire, par des agrégés de droit ou des personnes qui, à raison de leur parcours ou d'autres diplômes, sont considérées comme légitimes pour compléter les enseignements fondamentaux qui sont donnés par ce corps des enseignants, chercheurs, agrégés ou maîtres de conférences, bien entendu. Je pensais aux enseignants professionnels au sens complet et large du terme. Je crois qu'il est important d'avoir un corps homogène qui assure un petit peu la cohérence de l'ensemble, parce que c'est pas parce qu'ils ont été acculturés, on a tous été acculturés avec des maîtres différents, et on sait qu'en droit on adore toujours avoir une école, la deuxième, et puis il y a toujours l'école intermédiaire, parce qu'il faut bien pour l'agrégation publier un papier, ça y est, j'ai encore dit quelque chose qui va fâcher, non, bon. Mais c'est normal, nous sommes une diversité aussi, tiens, là aussi, comme en médecine. Donc, il faut ce corps de chercheurs, d'enseignants qui n'ont pas, ne montrent pas la route à suivre d'un geste de ciment armé, comme aurait dit Prévert, mais qui, de par les échanges qui doivent le traverser, qui le traversent, ne fût-ce que les débats qu'on peut avoir dans les revues ou les débats qu'on a dans les colloques, eh bien, permet de garder une communauté de notions et de conceptions du droit et des institutions juridiques. C'est la première chose. Je crois que la deuxième chose, c'est que quel que soit le lieu, il faut en même temps pas que ce soit des lieux fermés, c'est-à-dire qu'il faut que les transversalités soient, la pluridisciplinarité soit développée. Ça ne veut pas dire qu'il faut enseigner tout et n'importe quoi, parce que là aussi, on n'a pas assez d'heures. Maintenant, le minimum légal, c'est 5 ans pour faire du droit. Jusqu'à après la guerre, c'était 3 ans. Pour être licencié en droit, et puis 4, et puis maintenant, tout le monde fait 5 ans, on se demande de pourquoi et pourquoi faire, et est-ce que là, une recomposition, est-ce qu'on se mettra un jour d'accord entre nous sur la nécessité d'une vraie recomposition du contenu des études, avec une année préparatoire, c'est pas pour singer la rue Saint-Guillaume, mais une année de culture, de propédeutique, Thomas, de culture générale, juridique et institutionnelle, et après une année deux années de fondamentaux jusqu'à la licence, et après des spécialités.
Non, ça a été écarté par la loi de Sèvres. Hein.
Oui,
c'était jugé.
Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question? En tout cas, moi.
Le problème, c'est qu'il faut une volonté politique.
Mais, comme pour beaucoup de choses. Voilà. Comme pour beaucoup de choses. Voilà, j'ai été trop long. Je voulais juste dire que par rapport à la formation professionnelle dont va parler mon collègue et camarade de promotion, Pierre Ronsin, la question de la formation, là aussi, est essentielle. Parce que Jean-Jacques Israël disait école d'application ou école fondamentale. Et notre école, qui est une école de magistrature, qui est une bonne école, je crois que tous les magistrats qui ont récupéré en fin de formation des jeunes, des auditeurs justice sortant de l'école, sont satisfaits de la formation qui est dispensée, alors même que les modalités d'enseignement, le contenu des enseignements ont beaucoup varié, ne fût-ce que depuis 1958. Et qu'on a toujours hésité entre le modèle école fondamentale et école d'application. Et c'est un peu la quadrature du cercle de ce côté-là. Ce n'est pas un recul, c'est en écho, en réponse à ce que vous disiez. On n'a pas tourné le dos au droit dans l'enseignement de l'université, mais il y a un concours qui est assez difficile, qui en tout cas est particulièrement sélectif, et donc on estime que c'est en amont que les gens doivent avoir fait preuve de leur habileté, de leur aptitude juridique, et après qu'il est temps, une dernière fois, de les ouvrir aux conséquences sociales et des décisions qu'ils rendront dans un environnement donné. En tout cas, je le dis là comme ancien utilisateur de l'école et ancien membre de ce conseil d'administration, mais j'espère que mon camarade va apporter peut-être la contradiction, en tout cas certainement dire les choses mieux que moi, mais ça veut dire, quand on dit ça, en tout cas à mon sens, toute la complexité d'une formation qui est située, qui est comment dirais-je, orientée vers un but, et donc une formation qui doit être professionnelle.
Merci beaucoup pour ces bonnes questions, y compris politiques. Je pense que je voudrais. Il y a une petite question, voilà, avec un relais. La question que je me pose, vous semblez souhaiter que M. Xavier Roussin, bonsoir, intervienne avant vous. D'accord, très bien. Et donc, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à l'École nationale de la magistrature.
Merci, c'est toujours difficile de parler en fin de table ronde, mais j'ai gagné une place, donc je suis ravi, j'aurais peut-être quelque chose de plus à dire, surtout après avoir parlé à la procureure générale qui connaît bien cette école. Moi, mon propos, il partait de la question de former les juristes. Je vais essayer de vous répondre en deux points, parce que je suis un juriste, de vous dire un peu un point de vue de l'école sur l'amont et peut-être vous dire ce qu'on fait dans cette école pour répondre à cette grande interrogation de certains. Il semble qu'on n'y passe pas le droit, qu'on n'y apprenne pas le droit. Donc je vous dirai un peu quels sont les présupposés de la pédagogie qui est à l'œuvre dans cette école. Où former les juristes, ma réponse elle est assez claire, peu importe où. Et je rejoins Philippe Agal-Montagnier, peu importe où, pourvu que ces juristes soit bien formé au droit et à son application, ou en tout cas dans les capacités de ses étudiants à plus tard appliquer le droit. Pourvu qu'il soit bien formé, ou en tout cas qu'il soit formable de manière complémentaire par rapport aux attentes de la magistrature. Et on peut d'ores et déjà dire que pour la magistrature, les publics peuvent être divers et que certains peuvent avoir des besoins de compléments de formation que d'autres n'auront pas en fonction de leur parcours. Puisque la magistrature intègre aussi des professionnels en reconversion professionnelle, notamment de plus en plus d'avocats qui, par le biais soit des concours dits complémentaires ou exceptionnels, ou par recrutement sur titre, vont venir, ou par des juristes qui ont pu travailler dans des entreprises ou des administrations et qui ont besoin éventuellement de compléments. Peu importe où ils sont formés, pourvu que leur connaissance juridique ne soit pas en tout cas leur seul atout positif, c'est-à-dire que leur richesse soit aussi à part égale, ça j'insiste, à part égale, qu'elle soit humaine, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit éthique et qu'ils aient une personnalité équilibrée. Peut-être on peut parfois souhaiter qu'ils en sachent moins, mais qu'ils aient en tout cas une personnalité équilibrée. Et les jurys sont très attentifs à ces aspects, aussi bien à l'entrée de l'école de la magistrature qu'à la sortie de l'école de la magistrature. J'ai dit peu importe où, mais en même temps, je vais tout de suite faire une réserve ou un petit pas en arrière. Peu importe, c'est vrai, c'est le principal qui vient d'une faculté de droit, j'ose le dire, d'un institut d'études politiques, dans quelques années, vraisemblablement, d'un enseignement à distance ou d'un MOOC dont vous avez parlé, pourvu qu'ils aient été bien formés. Peu importe, mais pas tout à fait, parce que la carte géographique, les interrogations de Philippe Agal-Montagnier, les implantations judiciaires, elle est très étendue. Et tous les territoires doivent accueillir de façon stable, le mot stable est important, des magistrats, et donc également dans le nord-est, également dans le nord, également dans nos territoires d'outre-mer. Et pour moi, cette question du lieu des implantations, des lieux de formation juridique, a de l'importance par rapport à ces territoires et à leur capacité à susciter des juristes de qualité. Et moi, j'observe que malgré le discours dominant sur le jeune homme ou la jeune femme citoyen du monde, les tropismes régionaux, les tropismes familiaux, des bases de solidarité par rapport aux enfants, en tout cas ils ont la vie dure et qu'on a encore des déficits de candidature pour aller exercer le métier de magistrat dans certaines régions. Et donc moi je pense qu'il y a un intérêt à avoir des lieux de formation hétérogène et équitablement répartie sur tout le territoire national et pas des hyperconcentrations de lieux de formation, d'autant qu'une petite étude à laquelle je viens de me consacrer montrait que parmi les lauréats des deux derniers concours, plus de 35 universités juridiques étaient représentées au niveau de la licence 1, licence 2 et licence 3. Et qu'en réalité, la plus grande sélectivité des lieux de formation préalable au concours de la magistrature n'était même pas tant au niveau des master 1, où on tombe à peut-être 23, 25 lieux répartis sur tout le territoire, mais au niveau des master 2 et des IEJ, ou des lieux où ils ont pu être formés. Donc le socle, la base et la qualité de l'enseignement résulte clairement, je pense, de ces études. Que une trentaine de lieux, nos étudiants proviennent, et donc je pense qu'il faut continuer sur ces bases et pas les remettre en question. Alors répondre peu importe où ne veut pas dire dans mon esprit peu importe qui. Et un des vœux de cette école, et aussi de la magistrature, c'est qu'on continue toujours plus à partir d'une mixité sociale, à partir d'une mixité, j'ose dire, sexuée, c'est-à-dire avec peut-être un meilleur équilibrage des garçons, des hommes par rapport aux filles et aux femmes. Et donc tout ce qui peut, par rapport à votre question, dans des lieux de formation de juristes, peu importe leur nom, favoriser cette diversité, favoriser cette mixité, eh bien c'est la bienvenue. Donc la qualité où les former doit, de mon point de vue de consommateur et d'étape supplémentaire, m'envoyer à une réponse qui serait peu importe dès lors que ces lieux, ces modalités de formation des juristes permettent d'obtenir une bonne diversité des publics. Alors je passe peut-être sur les attentes parce que je déborderai mon propos sur ce que l'on attend des contenus de ces formations. Pour peut-être venir à mon deuxième point, qui est de dire qu'effectivement, l'École nationale de la magistrature n'est pas un étage supérieur de l'université. Si on a pu hésiter, très clairement, on n'hésite plus maintenant. C'est une école d'application du droit. Et on n'y enseigne pas le droit parce que, précisément, on part du principe, et le concours est là pour le vérifier, que ces juristes ont déjà été formés au droit et que l'objet n'est pas de leur rajouter une couche supplémentaire ou de leur rappeler leur cours de première année, parce que ça, c'est le but du concours, de vérifier ces éléments. Non, il s'agit clairement d'une école d'application du droit et d'une école de transition entre les enseignements du droit et des pratiques judiciaires qui vont intervenir au bout d'un cycle de 31 mois, donc deux années et demie relativement longues, mais aussi relativement courtes, compte tenu de tout ce que l'on y met. Alors, quand on parle du lien, bien sûr, avec les écoles du barreau, mais aussi par les chiffres. 3200, a-t-on dit, les promotions de la magistrature ont pu, dans des années, hélas, peut-être, qui peuvent être critiquées quant aux politiques choisies, trop basses, à ne recruter que 80 étudiants et avoir des promotions de 130 étudiants. Bon, maintenant, même si on est sur des hautes hauts, on sera sur des effectifs, 250 auditeurs, toutes origines confondues pour l'année, pour la promotion 2013, mais on va en gros avoir un étiage à 270, peut-être 280, pendant toute la durée de la législature. En tout cas, c'est ce que et la ministre et le Premier ministre ont affirmé. Donc, former 280 ou former 3200, 3300, 3500, évidemment, pose à l'évidence des problèmes différents, d'autant que les métiers, s'ils doivent travailler ensemble, les métiers sont différents de celui de l'avocat et de celui du juge ou du procureur. Alors il n'y a surtout pas de complexe de supériorité, il y a simplement la claire conscience, la distinction entre les fonctions, et en même temps une énorme nécessité que les futurs magistrats connaissent bien le métier d'avocat, et c'est la raison pour laquelle une réforme très importante a eu lieu en 2008, qui dans ces 31 mois impose, et c'est le premier acte fondateur de la formation, à ceux-ci d'aller, non pas suivre des cours de droit, mais d'aller dans des cabinets d'avocats, et surtout de ne pas être dans des positions purement d'observateurs, mais de pratiquer avec leur maître de stage l'entretien avec le client, la rédaction du contrat, la plaidoirie, l'assistance, le conseil. Donc notre formation qui n'est pas du tout une formation opposée à celle du barreau, mais qui est de nature différente, intègre pleinement dans cette première partie de formation à stage avocat. Puis ensuite, elle a un modèle d'enseignement qui vise à insister énormément sur l'éthique, la déontologie, la méthodologie du jugement civil et à reprendre les grands process, qu'ils soient pénaux, de la découverte de la scène de crime à l'exécution des peines, pour amener l'auditeur de justice à réfléchir à l'ensemble des fonctions du magistrat qui doit apporter un regard sur la preuve scientifique, doit prendre des décisions d'action publique, doit requérir la juste peine, et on les amène à réfléchir à la juste peine, mais à partir d'une méthodologie des cas, une méthodologie des simulations, une méthodologie de réflexion, et une méthodologie qui, vraiment, sur un cursus de temps, doit leur faire appréhender l'ensemble des situations. Notre formation initiale, finalement, c'est une formation de type présentiel relativement courte sur les 31 mois. On est tout confondu à peu près autour de 9 mois. Et pour le reste, la partie essentielle de la formation est une partie de stage juridictionnel d'une année, cabinet par cabinet, avec des méthodes d'évaluation qui ne sont pas celles du compagnonnage, mais un regard le plus objectif possible sur des exercices très concrets de conduite d'entretien, de présidence d'audience et de réquisitoire de prise de parole. Et le reste de la formation sont des stages, l'auditeur de justice prenant un uniforme de surveillant et voyant la réalité pendant 15 jours, puis éventuellement lors de stages complémentaires d'un surveillant de prison ou d'une association de consommateurs, peu importe, je pourrais allonger mon propos. C'est une formation généraliste, pas une formation de spécialiste. C'est un tabou français et nous sommes nombreux à y être attachés. C'est une formation qui forme à la fois les futurs juges et les futurs procureurs au sens de la CEDH. Et c'est, je le dis, et ce n'est pas une provocation, mais aussi un modèle qui recueille quand même, notamment depuis cette attente de 2008, un assentiment général, c'est-à-dire un très fort taux de satisfaction de ses élèves, un très fort taux de satisfaction des magistrats qui accueillent ensuite les magistrats, les auditeurs de justice comme magistrats, et un fort taux de satisfaction des autorités de tutelle, du conseil d'administration. Donc c'est un modèle qui, petite fille, est moins remis en tout cas en question que peut-être dans certaines écoles de formation du barreau, où il semble régner souvent une grande insatisfaction par rapport au contenu ou par rapport à l'utilité de cette formation. Et ce sont aussi des nombreux avocats que je connais bien qui ont pu le dire. Voilà en tout cas ce qui vous explique peut-être, madame, pourquoi on n'enseigne pas le droit dans cette école d'application. En revanche, on vérifie notamment par les épreuves emblématiques du jugement si la solution donnée est bien la bonne, si la méthodologie appliquée lors de différents exercices de nature juridique est la bonne, si la motivation et la réflexion sur le métier, l'éthique, la responsabilité sont la bonne. C'est un peu cela notre modèle qui dépend naturellement du haut niveau de formation et de qualité des enseignements de ces lieux de formation des juristes. Merci.
Alors, merci pour toutes ces précisions. Je vais vite parce que l'heure tourne et donc ne m'en veuillez pas de mes transitions un peu abruptes. Je passe la parole à Christophe Jamin. Vous êtes tellement souvent cité cet après-midi et vous avez déjà intervenu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va vous entendre de manière peut-être plus formelle dans une intervention prévue. Professeur de droit privé, vous êtes directeur de l'école de droit de Sciences Po.
Je vais parler brièvement par observation, ce ne seront pas des réquisitions,
mais je vais parler extrêmement brièvement en articulant mon propos autour de deux thèmes. Le premier sur les lieux, alors on peut concevoir les lieux de mille manières. Vous avez introduit le débat en parlant des mocs. Je pense que dans l'esprit de certains des organisateurs, vous ne voyez pas la question des lieux exactement de la même manière, mais il y a de nombreuses manières d'aborder la question. Donc je l'aborderai très brièvement sur les lieux, c'est-à-dire sur les établissements. Et puis, je vous ferai part très brièvement de ma réflexion après 4 ans d'existence de l'école de droit de Sciences Po, ce qui m'a le plus intéressé dans l'expérience collective qui est la nôtre, parce que c'est vraiment une expérience collective. J'ai beau être un entrepreneur de la forme, je ne suis pas tout seul et on est assez nombreux. Alors, premier point sur les endroits de formation. Je crois que quand on regarde la carte mondiale, en matière de formation, il me semble qu'il y a 3 grands modèles, je me trompe peut-être, et j'y vais à l'arrache, mais il me semble qu'il y a 3 grands modèles qui sont en concurrence ou qui sont complémentaires. Premier modèle, au fond, on n'a pas besoin de former les juristes dans des institutions spécialisées où on les formerait au droit. C'était la tradition américaine jusqu'au début du XXe siècle, c'était là. Tradition anglaise, ça a été la tradition anglaise jusqu'aux années 70, et ça tend à disparaître, mais on pourrait imaginer après tout qu'on n'a pas besoin de se former dans un établissement spécialisé. C'est d'un certain point de vue une certaine tradition française. Quand on regarde les membres du Conseil d'État ou d'un certain nombre de magistrats des juridictions administratives, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont passés à l'ENA, mais quand on les interroge et qu'on les fréquente, le faire quotidiennement, on voit très bien que ce qu'ils ont appris, l'essentiel du droit qu'ils ont appris, ils l'ont appris durant leurs 5 années où ils étaient auditeurs au Conseil d'État. Et ils l'ont appris dans un compagnonnage. Donc au fond, c'est aussi un modèle qui est un modèle français. Mais c'est le grand modèle anglais. On a eu de très grands juges, de très grands praticiens qui étaient des gens qui n'étaient jamais passés par une faculté de droit. Il ne fallait surtout pas passer par une faculté de droit. On était formé dans tel ou tel endroit à la philosophie, à la médecine, à l'économie, aux humanités classiques. Et puis, on allait se former chez un barrister ou un solicitor pour autant qu'on ait un stage. Et au fond, après tout, vous ne me démentirez pas, quand on a lu pendant des années Kant, Hegel à très forte dose, dire une décision du Conseil constitutionnel, ce n'est pas très difficile. Hein, finalement. On peut faire ça assez rapidement. Il y a en termes de qualité de rédaction, les membres du Conseil constitutionnel me pardonneront. Enfin bon, on dira la même chose du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour suprême des États-Unis et de l'ex-House of Lords. Mais voilà, donc il peut y avoir ce modèle. Et au fond, il a été défendu à une époque par Lincoln. Il était d'un certain point de vue défendu par Holmes, qui disait au fond, puisqu'on a eu le jeu des citations, Holmes disait le droit n'est pas se tient pas dans la raison mais dans l'expérience, et on pourrait tout à fait imaginer un système de genre là, formez-les à n'importe quoi, mais formez-les bien, et puis après le droit, la technique juridique c'est quand même pas très compliqué. Bon, alors parfois il peut y avoir une déformation d'ailleurs de ce discours, il m'est arrivé de discuter avec des avocats du barreau d'affaires, les méchants, qui disaient, mais au fond, que vous leur donnez, vous pourriez leur donner une fois, on s'en moque un peu. Vous nous avez sélectionné une norme alien topissime qui est une fusée en matière intellectuelle. Nous, on la formera. Elle a fait de la philo, elle a fait de l'économie, elle est parfaite, ça nous va. Vous nous l'avez sélectionné. Ce qu'on veut, c'est que vous sélectionnez les bons chevaux. Bon, c'est un discours parallèle, mais qui n'est pas très éloigné. Alors, un, c'est nulle part. Deux, c'est le modèle français. Qui s'est dégagé au fil du temps, qui est une séparation entre les facultés de droit et les écoles professionnelles. Alors, les Allemands sont un peu sur le même registre. D'un certain point de vue, je vais un peu lâche, mais les Américains pourraient être un peu sur le même. Mais on est vraiment, nous, sur ce modèle-là. Ce n'est pas un modèle ancien, c'est un modèle qui date du XXe siècle. Et c'est un modèle qui consiste à dire, ben, vous allez apprendre la grammaire du droit, les rudiments du droit, mais plus que ça, vous allez être formé au droit dans les facultés de droit, et puis après, vous allez faire une application au droit ou du droit, mais là, ce ne sera plus l'apprentissage du droit, ce sera autre chose. Alors, on a l'ENM, on a les écoles du barreau, on a le notariat, parce que la formation du notariat qui vient d'être réformée récemment est aussi très intéressante. Et moi, je dois avouer, mais on ne creuse pas la question, j'ai du mal à comprendre la distinction qu'on fait entre l'apprentissage du droit, l'application du droit, la formation du droit, l'application du droit, comme si l'application du droit n'était pas de la formation du droit, alors qu'on est dans quelque chose qui relève de l'action en permanence. Donc, j'ai un tout petit peu de mal à comprendre cette distinction que l'on fait. Moi, je crois qu'on apprend le droit en l'appliquant, par exemple, dans ce domaine particulier qu'est le droit. Et je crois surtout que cette distinction renvoie en permanence les facultés de droit françaises à un discours extraordinairement dogmatique. Et elles n'ont pas rompu avec un certain discours qu'elles ont inventé dans les années 1900-1920, et en les confinant dans cette distinction-là et cette opposition-là, on les empêche d'évoluer intellectuellement. Alors, elle prévoit des tas de programmes nouveaux, mais le fond intellectuel est toujours le même et il est nourri d'un certain regard posé sur le droit. Bon. Et je trouve ça dommage. Et c'est entre autres la raison pour laquelle on a été un certain nombre à se dire on va créer quelque chose. Notre objectif, c'était pas d'envahir le marché du droit des praticiens, du droit des affaires, s'ils le pensent, tant mieux pour eux. Mais c'était pas ça notre objectif, et c'est toujours pas ça. Troisième modèle, le modèle, alors là, école de droit compactée, si je veux dire, qui est aujourd'hui le modèle américain, qui est un modèle en pleine crise actuellement, mais qui consiste à dire, vous avez eu un BA en 4 ans, vous avez un JD en 3 ans, vous passez l'examen du barreau et vous exercez. Je ne parle pas des magistrats puisque le système n'est pas là. Et vous exercez le droit, alors, et donc là, le système est assez complexe, très intéressant à observer, mais du coup, il y a eu une pression constante des praticiens du droit, une bagarre constante entre les praticiens du droit et le milieu académique pour faire rentrer ce que nous, on a séparé à l'intérieur des facultés de droit. C'est un très très vieux débat qui prend des formes très différentes. Est-ce que ça va être en troisième année, qu'on va être plus sur des modèles pratiques? Mais en toute hypothèse, c'est rentré dans les facultés de droit elles-mêmes, et moi, il me semble, et ça mériterait d'être nuancé, que ce débat-là, cette contrainte très forte qu'exerce le barreau sur les facultés de droit, produit des choses assez intéressantes, et a peut-être, d'un certain point de vue, et mes camarades, si je dis ça, vont me tuer, a peut-être contribué à faire bouger un certain nombre de lignes dans les facultés de droit américaines, même si ces facultés de droit américaines sont beaucoup plus théoriciennes que les facultés de droit françaises, pour mille raisons. Mais donc, il y a une espèce de tension permanente. Et en tout cas, on n'est pas sur ce dualisme, cette opposition, ce côté binaire, bizarroïde. Mais au fond, c'est peut-être des grands lecteurs de Dewey, etc. Bon, bref, j'arrive. Ça, c'est les trois, et c'est en pleine crise, puisque vous savez que Barack Obama vient de se prononcer en disant qu'il fallait que les études de droit ne durent que 2 ans, que la troisième année était inutile. Bon. Grand débat, mais avec cette tension interne, au fond, le droit, on est dans l'action. Et c'est ces trois modèles qui se baladent et qui bougent dans le monde, et les Japonais bougent dans un sens, les Coréens dans le même, en Amérique du Sud, ça commence à discuter, les Américains eux-mêmes sont en plein bouleversement, les Canadiens réfléchissent, les Australiens passent du système anglais au système américain. Bon. Alors, on fait des choix, et les choix ont des avantages et des inconvénients, mais c'est là-dessus que ça se joue, à mon sens. Premier point de mon observation. Deuxième point de mes observations, ce que je retire de cette expérience collective. En disant à la sociologue que nous avions envoyé un tout ici une sociologue en donnant un doctorat à Maurice Cosa, à Duncan Kennedy, qui n'est pas l'archétype du défenseur du cabinet d'affaires. Bon, je ferme la parenthèse, c'est bien important. Qu'est-ce qui me semble important dans ce qu'on a fait? Enfin, si tant est que c'est une importance, mais le premier point, je pense qu'on prend des étudiants qui sont d'ores et déjà diplômés de l'enseignement supérieur. Au fond, ça, c'est emprunté aux États-Unis, hein, puis il y a 4 ans, études de droit 3 ans, et c'est très intéressant d'avoir des étudiants qui sont d'ores et déjà diplômés d'enseignement supérieur. On va nous dire parce qu'on finit par les sélectionner, c'est pas faux, mais c'est très intéressant d'avoir dans une salle de cours quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur, quelqu'un qui est normalien, quelqu'un qui a une licence de philosophie, quelqu'un qui a un master d'histoire de l'art, quelqu'un d'autre qui a un master d'économie, quelqu'un qui a été formé en Chine à l'école machin chose, à la LSI, parce qu'on a 30 nationalités dans l'école, 30 nationalités. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça crée, ça change complètement la salle de classe. Et avec des gens qui viennent avec leurs connaissances, qui vous remettent en question en permanence. Je me souviens d'un étudiant absolument meurtrier que j'avais, qui était un, justement, qui avait fait de la philosophie à haute dose, et toutes mes catégories sautaient les unes après les autres de manière extraordinairement intelligente, et lui apportait la contradiction en économie. Ça change tout. Et ces gens-là ont un regard sur le droit, ils vont très vite. Et ils ont un regard sur le droit qui est très critique, très, très intéressant pour l'enseignant, et très intéressant, me semble-t-il, pour eux-mêmes. Deuxième chose qu'on a fait, c'est de supprimer la distinction entre le cours magistral et les travaux dirigés ou les séminaires. On vous parle, vous écoutez. On dialogue, alors on a essayé de se battre pour constituer que des petits groupes. Hein, mais on n'est pas un truc super élitiste, on a quand même 400 étudiants, c'est pas 10 000, mais on a 400, on est une petite fac, on ressemble d'un certain point de vue à certaines facultés de province que j'ai connues. Mais alors du coup, ça oblige à éradiquer toutes les hiérarchies. Il n'y a pas le prof et les chargés de travaux dirigés. J'enseigne le droit des obligations, j'enseigne avec 5 autres personnes, on est à égalité, on a chacun entre 30 et 40 étudiants, et on discute. Et on discute de la pédagogie, et on se rend compte, mais je ne suis pas le prof, il n'y a pas de chargé de travaux dirigés, donc ça casse les hiérarchies. Mais moi, je trouverais ça très bien, par exemple, que dans les facultés de droit, les profs fassent un cours pour même dire que c'est chargé de travaux dirigés. Ça me plairait beaucoup. Je pense que les gens les plus intéressants dans les facultés de droit, c'est les chargés de travaux dirigés. C'est eux qui sont au cœur du système, à mes yeux. Je peux faire mes trucs. On casse les hiérarchies, et à l'intérieur du cours, alors, je vais dire que je suis un maître de service de Pantin, j'ai quand même lu Jacques Pensière et Jacques Otto à Rondose. Et on essaye d'employer le plus possible, en tout cas c'est ce que je fais, une pédagogie du maître ignorant. C'est-à-dire, je me balade avec eux, je ne sais pas où je vais, et on travaille ensemble. Ça mériterait quelques développements quand même, mais enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas est parfois quelque chose de très intéressant. Bon. Alors tout le monde ne le fait pas, mais quand même. Ça c'est le deuxième point. Troisième point qui est très intéressant, c'est qu'on fait plus de théorie et plus de pratique. Et ce qu'on minore, c'est la dogmatique. Autrement dit, on a 200 intervenants extérieurs et on est 15 profs à 17 maintenant à temps plein. Alors c'est très intéressant. Je passe des heures et des heures avec les praticiens pour qu'ils enseignent vraiment et qu'ils ne soient pas dans la dénote. Et on a des super Ferrari. Et là, il y a des gens extraordinaires, hein, des femmes et des hommes remarquables. Qui ont fait plus de théories, qui sont des pédagogues repères et qui ont une connaissance de leur pratique fantastique. Mais on fait plus de théories. C'est-à-dire, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, on a recruté des gens qui ont des doubles formations. Donc on casse le regard externe-interne. Et on a des gens qui, on a un anthropologue juriste, un sociologue juriste, philosophe juriste, et on a des cours de droit littéraire. Ils sont tous obligés de prendre un certain nombre de cours théoriques, du genre droit politique, droit littérature, etc. Et ça, on les force, on se force à faire ça, et en même temps, on se force, dans les cours, un certain nombre de cours, d'exercer un regard critique extrêmement fort et d'aiguiser leur sens critique. Mais la méthode Jacotto y aide aussi. Donc on est là-dessus et on essaye de minorer la part de la dogmatique, c'est-à-dire le droit des livres de droit, le droit des manuels de droit. J'ai publié un petit article là-dessus très inspiré de Bruno Latour, qui est que le manuel de droit, c'est des boîtes à faire, enfin, c'est des machines à fermer, à créer des boîtes noires, c'est-à-dire à ne jamais ouvrir le débat, mais à clore le débat avant même qu'il ait eu lieu. Donc ça, on n'en veut pas. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, on a créé ce qu'on appelait au début une année de césure, et cette année de césure, elle est consacrée à de la pratique pendant 6-7 mois. Donc ils ont un an de droit derrière eux, et on les envoie chez les praticiens. Alors les praticiens ne sont pas très contents, parce que les praticiens ils aiment bien avoir des esclaves qui sont en fin de cycle, qui vont pouvoir travailler sur le domaine très précis. Et je leur dis, non, je ne vous vends pas ça. je vous vends autre chose devant quelqu'un qui sait parler, qui sait machin, hein, mais je ne vous vends pas le super technicien. Faites-moi confiance. J'ai repris mon patient, je suis allé les voir les uns derrière les autres. Alors évidemment, j'ai des discours compliqués, je vis dans une contradiction permanente, mais ça ne me gêne pas. Et je vais les voir et ça marche pour certains. Et ça se fait. Pourquoi je le fais? Parce que je veux les rendre sceptiques, enfin nous voulons les rendre sceptiques d'un double point de vue. En bon lecteur de Jérôme Flin, dont je parlais tout à l'heure, il faut les rendre sceptiques sur le droit, sur la règle est manipulable, mais elle se travaille, les arguments sont toujours réversibles, etc. Et les rendre sceptiques sur les faits. Les faits sont des constructions intellectuelles, et donc là, dès que vous avez ça, et que vous avez vu un praticien avec son cynisme, là vous avez un petit peu de mal à dire, à parler des valeurs, vous en parlez différemment, et puis vous avez un petit peu de mal à défendre le syllogisme. C'est-à-dire, comme faire, ça marche plus, ça c'est cassé de tous les côtés. Bon. Et après, on les envoie à l'étranger, dans une université étrangère, j'ai repris ma valise, et puis je suis allé me balader de par le vaste monde, et pour avoir un semestre d'échange, pour les étudiants qui le veulent. Tous ne le veulent pas, ils ont des stratégies différentes. Pourquoi? C'est une seule raison. C'est pas pour qu'ils parlent anglais ou qu'ils peuvent aller ailleurs. C'est pour qu'ils déréifient les catégories juridiques. C'est-à-dire qu'ils les fassent exposer. Je leur dis, vous avez eu un cours de droit des contrats avec moi, allez prendre un cours de droit des contrats au Japon, allez prendre un cours de droit des contrats en Amérique du Sud, allez prendre un cours de droit des contrats à Keto. Et là, vous allez prendre des catégories vont pas s'emboîter, ça va pas marcher. Je veux en faire des juristes de droit français. Mais je veux en faire des juristes de droit français qui ne croient pas à la dureté de leur catégorie intellectuelle. Et je peux vous dire qu'après ça, quand ils reviennent chez nous, waouh, ils sont complètement transformés. Et ils n'ont plus du tout les mêmes attentes à l'égard de leurs enseignants. Ils ne les croient plus, hein, de la même manière. Et alors là, on les replonge dans toute une série de... On a complètement, là en deuxième année, de plus en plus... On change la pédagogie. Alors, on fait plein de choses, des choses à ISA, des ateliers de temps en temps, même dans les cabinets d'avocats, où ils vont manger des croissants, etc. Et je sais très bien, et je ne suis pas dupe, et c'est bon, ok. Mais il y a des ateliers, il y a des séminaires de recherche avec toute une série de gens, dont des juristes et des non-juristes. Il y a des MOOC, on les inscrit massivement à des MOOC, enfin des concours d'arbitrage, de machin, de ceci et de cela. Bon, on essaye de diversifier la pédagogie et en même temps créer des cliniques du droit. Alors les cliniques du droit, système d'importation américain, bon, alors vous avez en gros le stage à l'extérieur dans le cabinet d'avocat où c'est épouvantable parce qu'ils sont lâchés dans un cabinet d'avocat, c'est juste épouvantable parce que clinique comme la tour, c'est horrible. La clinique, c'est les praticiens qui viennent dans la fac. Et c'est nous qui nous en occupons par petits groupes, et on leur apprend la pratique, et en même temps qu'on leur apprend la pratique, on leur apprend la critique de la pratique. C'est-à-dire, on essaye de... Bon, voilà. Alors, c'est pas simple, c'est compliqué. Alors, par exemple, on a une clinique, j'ai cherché de l'argent, qu'on fait avec l'université américaine, on les envoie en Afrique, et ils vont regarder comment on peut utiliser les droits de l'homme, vision très instrumentale du droit, bah, après tout, qui a fasciné des générations entières de juristes français, pas simple. Mais comment les droits de l'homme peuvent être un instrument de développement économique. Mais en même temps, on a des gens qui vont dans les maisons du droit et de la justice à Paris, qui font toute une série de choses. Alors voilà, ça c'est ce qu'on essaye de faire, ça produit des effets assez intéressants. Les étudiants font un peu de tout, il y en a qui passent le barreau, il y en a qui vont à l'ENM, il y en a qui ouvrent une boutique de fish and chips, il y en a un qui ouvre une chaîne de boulangerie au Chili, et ils ont été formés par le droit. C'est super top quand même, nos élites. Allez, on est dans une école d'élite, ok, j'accepte. Encore une. Mais, admettons-le, ils sont ni à Polytechnique, ni à Normal Sup, ni à l'ENA. Il y a 12 000 étudiants. Je sais plus ce que je voulais dire. Ils sont formés par le droit. Nos élites sont formées, soit sont des ingénieurs, soit ils sont formés par le management. On les met en masse dans les écoles de commerce. Et là, on leur dit, voilà, le droit, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de de complexe. Et là, on a été très marqué, nous, par la tradition des Creeks et la tradition des réalistes américains, des néo-réalistes américains. Ça peut être passionnant et vous pouvez l'utiliser, cette manière de raisonner, d'aborder les questions, de voir le monde dans toute une série de questions. Et donc, faites ce que vous voulez là. Alors voilà, c'est une expérimentation en cours. Bruno Latour était notre directeur scientifique pendant des années, c'est un pragmatiste, au sens des pragmatistes américains. Moi j'adore cette idée de bouillonnement, de remise en cause des oppositions duales, de marmite. C'est ça qu'on essaye de faire. Ça marche moins bien sur certains points, et on évolue. Alors, on donne des cours évidemment en français et en anglais, mais on en donne aussi en espagnol. Nouvelle expérience, parfois on se rend compte que ça marche pas, parfois on se rend compte. C'est ça, c'est du plaisir, c'est du fun. Et alors, pour rebondir sur ce que vous voulez, effectivement, on réfléchit aussi, vous avez une longueur d'avance, on réfléchit au MOOC, on est allé voir rencontrer nos homologues de MIT, on y réfléchit, on s'y met, on commence à s'y mettre dans une optique qui sera, je pense, légèrement différente de la vôtre, et en s'occupant, en utilisant la plateforme fun en grande partie. Mais vraiment, si je pouvais résumer le propos, c'est le fun. C'est le fun et c'est transformer le droit en quelque chose d'assez festif. Ouais, c'est dur, mais ça peut être, c'est long, c'est vrai, mais ça peut être quand même très drôle. Et c'est ce plaisir-là qu'on a entre nous et qu'on essaie de faire partager aux étudiants, pardonnez-moi là.
Je m'aperçois qu'il est absolument hostile à la galanterie française aujourd'hui, puisque ça fait deux fois de suite que dans la table ronde, la dame est à la fin. C'est ça l'égalité peut-être.
C'est le meilleur pour la fin.
Il y a des livres savants sur ce sujet. Faut-il renoncer à la galanterie quand on a l'égalité, pas en France, ailleurs, enfin, c'est un autre sujet. Natacha Sofamor Brouillot, vous êtes professeur de droit public, ici même, citoyen de la faculté de droit et de sciences politiques de Versailles, c'est un peu en milieu, c'est à vous.
Voilà, alors ça tombe très bien que j'intervienne à 18h45 après cette longue après-midi de riches interventions, parce que en fait je ne suis là que pour représenter mon cher doyen Sandrine Clavel qui n'a pas pu être là. Et donc je n'ai pas du tout vocation à répondre, heureusement, aux 7 questions qui nous avaient été envoyées, chacune se subdivisant en 3 questions, donc ce qui faisait 21 questions, donc voilà, il est 7h20, je ne vais pas y répondre. Il y a juste 2 points qu'on aurait pu aborder. Un point qui était cher donc à Sandrine Clavel, qui était la question qui a été un tout petit peu soulevée, c'est à propos de justement conformer les juristes, la place de la faculté de droit dans une université pluridisciplinaire, et plus largement bientôt dans les presses. C'est un point qu'on n'a pas abordé et qui est important. Alors on a un petit peu évoqué à propos des incidences que ça peut avoir sur les enseignements, hein, mais qui est aussi important sur la question, sur la façon de concevoir la recherche. Parce que nous, par exemple, ici, bon, c'était une maison que je connais, on est un petit peu inquiet des dictats qui nous sont imposés par l'école doctorale, par exemple, hein, qui nous demande, par exemple, d'inscrire en thèse que des étudiants qui peuvent justifier d'un financement type CIFRE, voilà, qui impose, justement, comme on parle de la formation des juristes, hein, qui impose des journées de formation aux thésards. Alors, ils doivent suivre une journée complète de formation en économie, une journée complète de formation en géographie, en architecture. Et alors, ça peut être très utile, non, mais il faut penser la pluridisciplinarité. Peut-être qu'un étudiant en droit aura effectivement intérêt à suivre une journée de formation en économie ou en politique. Il n'aura peut-être pas forcément besoin d'une journée de formation en géographie ou en architecture. Donc il y avait cette question de la formation au sein d'une université pluridisciplinaire et avec la question des écoles doctorales. Voilà, c'était une première piste. Et puis il y a un point que moi j'aurais aimé aborder à titre personnel, mais parce qu'il figurait dans les questions, qui nous avait été indiqué, comment concilier l'utilité de séjour à l'étranger et le maintien du niveau des connaissances dans un droit qui reste largement national. Alors effectivement, moi j'ai en charge, en tant que citoyen, des départs en Erasmus, et j'ai beaucoup d'étudiants, et alors je trouve que ça s'accentue, notamment par rapport à l'année dernière, bon, je fais ça depuis le temps, mais d'étudiants qui sont inquiets et qui me disent, mais si je pars en L3, en Hongrie, en Pologne, je ne sais où, et que je ne fais pas droit des sociétés, est-ce que vous pensez quand même que je serai pris au Master 2 droit des affaires? Voilà, alors je sais que l'université, je l'ai dit, qui a fait ce projet justement de mettre des cours en ligne à destination des étudiants, voilà, qui partent en Erasmus et qui ne peuvent pas suivre tel ou tel module. Moi je leur dis, mais surtout partez, puis l'été vous apprendrez le cours dans un ouvrage de droit des sociétés, hein. Mais voilà, surtout partez. Mais je crois que c'est aussi un point qui est important dans le cadre de cette réflexion sur où former les juristes. Mais voilà, je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Je voulais juste vous redire que je suis très honorée de vous accueillir dans cette faculté, voilà. Qui connaît les concours d'arbitrage? On a une clinique de droit de l'environnement, voilà. Donc, on est très, très, très en avance, hein, là-dessus. Voilà. Merci beaucoup pour tout.
Et je suis vraiment étonnée parce que ce sont des élèves qui passent par la CPGE, qui sont inscrits parallèlement pour l'essentiel dans des licences de droit. C'est vrai que certains restent de classe CPGE vont à Sciences Po Paris, mais quand même leur vocation c'est de passer le concours D1, d'entrer à l'école normale supérieure de Cachan en pleine de Brue, donc depuis la semaine dernière, future école normale supérieure de Rennes au 1er janvier 2014. Et ce qui est bien, c'est que ces élèves fonctionnaires qui sont rémunérés pour cela, ce qui favorise la mixité sociale, ensuite, eh bien, préparent la réalisation des communications du convers, mais généralement, ils n'exercent pas. Ils font des thèses de droit, notamment de droit public, et en particulier de droit européen, puisqu'ils sont inscrits dans un magistère de droit et gestion qui les conduit à faire du droit européen. Et ils deviennent ensuite maîtres de conférences, professeurs des facultés de droit. Et il y a maintenant une préparation à l'ENM, qui connaît, comme je le sais, je crois qu'ils ont eu un peu plus de 50% de réussite. Là, il y avait la première année 5 candidats. Ce qui n'était pas mal pour une première fois. Et donc, c'est un endroit où il y a à peu près tout ce que l'on peut chercher. Et je ne sais pas, ils sont peut-être si heureux parce qu'ils vivent si cachés. Dans un colloque comme celui-ci, jusqu'à présent, personne n'en a encore mentionné l'existence.
Merci d'avoir fait. Monsieur Jarin.
On n'a pas parlé de la sécurité. Je sais que j'ai des étudiants qui passent, qui ne gardent pas, mais ça vient les regarder.
Et de même que le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, à l'enseignement du droit, qui n'est pas négligeable, et qui, dans sa tradition, est toujours un peu périphérique. Enfin, chacun sait la polémique qu'il y a eu à propos de la chaire de criminologie, et toute une histoire du CNAM qui est dans ce sens.
Vous ne pouvez pas.
Si, moi je veux bien, mais ok, il faut effectivement que les praticiens soient mis en relation avec des spécialistes. Je ne crois quand même pas qu'on va. Enfin, moi, je ne suis pas un très grand défenseur ni du doctorat ni de l'agrégation. Si on regarde du côté des États-Unis, au fond, ils dominent intellectuellement. Ils sont moins créatifs maintenant. Je pense qu'ils ont été extraordinairement créatifs durant les années 30, durant les années 60 et 70. Ils n'ont pas de doctorat. Ils n'ont pas de doctorat en droit et ils ont encore moins d'agrégation. Et pourtant, sur bien des domaines, et dans bien des domaines, ils ont été extraordinairement innovateurs en matière de
professionnel que l'enseignement. Les gens vont c'est le métier. Est-ce que ça passe nécessairement par un doctorat en droit et une agrégation, je n'en sais rien. Aujourd'hui, dans les universités américaines, certaines universités, on a un doctorat dans quelque chose et on a un GD, c'est-à-dire l'équivalent d'une licence en droit. Ça produit des choses qui sont quand même très intéressantes. Alors, on est dans le contexte français, etc. Je sens que Bernard regarde sur les liens, mais je pense que la chose la plus importante, c'est pas le doctorat, la chose la plus importante, c'est d'avoir des gens qui réfléchissent à ces questions, qui sont dans les institutions en permanence. C'est ça qui me semble plus important que... Parce que vous avez des praticiens qui sont vraiment super, qui ont eu des tas de formations. Quelqu'un qui s'est formé dans trois pays différents, qui a eu... Ça peut être des... Il faut qu'il soit pédagogue. Il ne faut pas qu'il raconte des anecdotes. Ça, on est tous d'accord.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et au passage, je trouve que l'expérience de Sciences Po est une expérience d'abord de réussite, concrètement, qui est une expérience de stimulation pour les facultés plus classiques. Et nous sommes dans un système aujourd'hui, même dans l'enseignement secondaire, où on commence à inviter les lycées à avoir des projets pédagogiques, une autonomie pédagogique. Et cette stimulation, cette compétition est saine. Elle est saine. D'ailleurs, c'est étrange qu'on l'encourage dans le milieu sportif et puis après on la clarifie par ailleurs. Bon, on ne va pas discuter de la question des moyens, etc., mais je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais pour revenir au doctorat, personnellement, pour avoir vu donc, pendant 8 ans passer toutes les thèses de ceux qui voulaient devenir universitaires, il ne faut quand même pas oublier que le doctorat s'est figé dans des canons de manière au fond assez récente, vers 1980. On parlait en venant dans la voiture de celui qui a fait vraiment, je pense que je suis devenu professeur de droit, qui est Bruno Petit, quand on va voir la thèse de Bruno Petit. Aujourd'hui, je pense qu'il serait éjecté de toute qualification du CNU, c'est pas le cas. L'agrégation, quand on regarde l'agrégation, comment elle se déroule aujourd'hui, ou lors de la proclamation de résultats, on a le président qui dit on a eu un candidat qui a fait un plan en trois parties, et encore, on sait vaguement que c'était contraire aux bonnes mœurs. Mais le plan de parti, on l'a dit, c'est les frères Mazot. Alors il y a un article merveilleux de Michel Vivant. Et mettons de côté les mots, c'est un peu comme le terme faculté. Il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait se dire d'abord que le doctorat peut ne pas être une thèse. Personnellement, j'ai siégé dans trois jurys de doctorat sur travaux où la qualité des dossiers était très supérieure à un doctorat classique. Que le doctorat pourrait être ce qui n'est plus en droit, un doctorat de recherche, d'expérimentation. Combien de fois au CNU on a défendu des thèses où effectivement, le candidat pataugeait dans son sujet, mais il avait le grand mérite d'être parti à l'aventure, alors que celui qui avait fait la thèse hyper classique, celui-là, passait triomphalement. Et puis, j'ai fait partie d'une petite commission qui souhaitait la révision des modalités du concours d'agrégation. Quand on regarde comment passait le concours d'agrégation, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, ça n'a strictement rien à voir aujourd'hui. Donc, si on met de côté les mots et si on se dit qu'après tout, on peut conserver les termes de doctorat, d'agrégation, qui sont des termes anciens, en revanche, personnellement, je souhaite vraiment qu'ils évoluent considérablement et qu'il y ait une diversité. Alors, c'est vrai, je le dis en toute liberté, j'ai souhaité une réforme du CNU et en particulier qu'il y ait, comme à la Cour de cassation, il y a des chambres mixtes, qu'il y ait des sections réunies en quelque sorte. Parce qu'on voit très bien qu'au CNU, quand on aborde la marge d'une section, là on vous dit « Ah ben non, vous n'êtes pas privatiste, vous êtes publiciste. » Puis là, ben « Non, 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 qu'est-ce que vous faites ici ?» Ou bien « Vous n'êtes pas juriste, et ainsi de suite. » Et on a une sorte de noyau dur qui fait qu'on phosphore à fond, tu le sais, sur les thèses, voilà. Donc, j'ai eu plaisir d'ailleurs, en me battant un peu, je crois, de faire qualifier le premier docteur en droit de Sciences Po. Lorsque j'étais au CNU, c'était le premier dossier. Je me souviens très très bien, on risque de parler un peu de la discussion, comme elle dit, mais rendez compte, vous avez créé une jurisprudence. Et la regrette en rien du tout. Voilà, je pense qu'on peut conserver, un peu comme le terme de faculté, on en parlait tout à l'heure, on peut conserver le mot, mais il faut remodifier considérablement tout cela. Et c'est vrai que c'est bien dans les jurys, quand on siège régulièrement, on dit tiens, parce que pour parler aux professionnels, dans les thèses, non seulement on fait en deux parties, mais deux sous-parties, deux, puis des fois il y a un moment d'égarement, il y a un paragraphe, il y en a trois. Ça devient un peu caricatural. Voilà.
Oui, je voulais peut-être, justement, pour partager avec vous, revenir sur cette fameuse distinction où apprend-on le droit et où fait-on l'application du droit. Bon, pour faire un peu sens, j'ai dit clairement ce que je pensais de l'école, de la magistrature. Bon, là, en réalité, les choses sont évidemment plus complexes parce qu'en faculté, si on étudie la jurisprudence, c'est bien le droit appliqué et je sais que vous allez bien au-delà de du simple exposé de la théorie. Quand on parle d'application du droit, notamment à l'École nationale de la magistrature, forcément, on décline d'une certaine manière des droits fondamentaux. Quand je fais venir des juristes de la Cour européenne, on parle du droit au procès équitable, quand on parle de déontologie sur l'impartialité, d'une certaine manière, on va réviser ces droits fondamentaux, on va leur donner une traduction concrète. Là où on est sur des champs qui, évidemment, n'ont pas, au sens, à être investis par une faculté de droit, c'est quand on va travailler l'entretien d'un futur juge des enfants avec la famille, le positionnement psychologique des uns et des autres, la prise de parole. Là, on est sur des exercices qui sont vraiment des exercices professionnels, comme un avocat, j'imagine, pourrait apprendre à rédiger tel contrat plutôt que tel autre, ou à passer d'abord par une phase de médiation avant d'aller au contentieux. Donc, je crois que, voilà, au-delà de ces grandes catégories, à l'évidence, ce dont nous avons besoin, ce sont aussi des étudiants avec des esprits agiles, en capacité, effectivement, de douter de ce qu'on leur a appris, mais en même temps d'y croire, d'avoir des convictions, de se confronter à d'autres modes de pensée par rapport à des catégories juridiques. Et la distinction n'est pas si formelle que cela, compte tenu des précisions que je viens de voir.
Une minuscule remarque par rapport à toujours cette question qu'on s'est posée tout l'après-midi sur la diversification des lieux. Bon, je dis oui, je crois que c'est possible, c'est faisable si on fait attention à cette chose. Mais je crois qu'il faut absolument être quand même très prudent et éviter que ça devienne un émiettement, ça conduise à un émiettement tel que ça devienne n'importe quoi. Être juriste, c'est quand même maîtriser un certain corpus minimal global. On ne peut pas se dire juriste parce qu'on on est très bon en droit administratif. Ça ne suffit pas. Je regrette. On peut être un bon applicateur du droit administratif parce qu'on en a fait dans cet extraordinaire compagnonnage qui est la formation au conseil, y compris pour les nouveaux conseillers de TA, pendant 6 mois, c'est génial. Mais ce n'est pas un juriste omni. Le juriste doit être un peu omni, pas omnipraticien, mais omni compétent sur les conseils fondamentaux. Sans ça, c'est fini. Alors après, on aura un très bon spécialiste de la technique du droit commercial par-ci, un bon spécialiste du droit social par-là, et pour moi, c'est pas ça, un juriste. Je crois qu'il faut faire attention, et là, c'est ou des lieux, de nouveau, alors des lieux habilités, ou des lieux recréés comme l'école de droit, dont on a un certain nombre, sujet duquel on a un certain nombre arrivé sans arriver à aspirer, ou alors c'est un savoir qui est quand même normé quelque part, ou un contenu qui est, si j'ose dire, en termes de programme en tout cas, qui est normé par des personnes habilitées, de par des diplômes reconnus au plan national.
Alors, vous voulez répondre directement parce qu'il y a une question? D'accord.
On va prendre la discussion. Simplement, pour remarquer que on part souvent du principe que le naturel, voire exclusif, de la formation des juristes, c'est la faculté de droit qui tolère quelques exceptions marginales, de Transpo, on en a déjà parlé, mais même normal, ça reste quand même assez limité. Donc, on part souvent d'un présupposé que l'apprentissage du droit est nécessairement un apprentissage difficile, technique et long, alors que chacun de ces points pourrait être discuté. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément si difficile que ça, c'est peut-être un peu mystification, hein, la difficulté du droit. La technicité, finalement, elle vient surtout du fait de la pratique, mais pas forcément de l'apprentissage fondamental. Et nécessairement, la longueur des études peut être sérieusement remise en cause si on remet en cause les deux premiers. On a parlé de l'humilité, c'est très bien, de l'indépendance d'esprit, donc ça c'est vrai que c'est très important. on peut penser aussi que le juriste est quelqu'un qui pense d'une certaine façon. Il a une tendance à penser d'une certaine façon qui n'est pas celle du médecin, qui n'est pas celle d'un autre savant. Et par conséquent, partout où on peut apprendre à penser comme un juriste, on peut former correctement un juriste. Et là, on a, nous, un problème dans les facultés de droit, c'est qu'on a un certain nombre de contraintes. Alors, mon ancien doyen, le doyen Conny, a insisté sur l'enseignement de masse. Alors, c'est une contrainte, mais en même temps, c'est vrai que c'est une des beautés des facultés de droit, qu'on prend ce moment-là. C'est vrai que c'est une difficulté. Ensuite, la différence entre le cours et le TD. Par exemple, quand on voit que c'est extrêmement difficile de faire installer des prises, d'avoir un tableau électrique qui tienne le choc, c'est quand on imagine tout ce qu'il faut derrière, ça devient encore plus compliqué. Et puis, ensuite, on a cette composition du corps, c'est-à-dire les professeurs, les maîtres de conférences, qui nous forcent à organiser toujours un tout petit peu nos enseignements avec une forme, on peut appeler ça hiérarchique, ou simplement pas forcément très efficace, où certains vont avoir les cours d'amphi, d'autres vont avoir les petits cours techniques, et puis on va avoir finalement l'essentiel du travail, parce que l'essentiel du travail, en fait, il est fait en TD, hein, même si le professeur se gargarise avec son cours magistral, mais l'essentiel de l'enseignement, il est fait quand même par nos chargés de TD. Et on a donc ce type de contraintes qui nous rend la tâche extrêmement difficile. Donc on peut former des juristes aux facultés de droit, on a peut-être besoin d'avoir un certain nombre de verrous qui pourraient sauter et on ne s'en rentrait pas plus loin.
Alors, une dernière information pour conclure, vous avez répondu, Sergent. Il y a quelqu'un d'autre? Dernière question,
on tient notre travail de jeu. Sur la normer les contenus, vraiment la fonction, moi je suis assez pour la diversité de la communauté nationale. Je crois qu'on va être d'accord. Les Allemands sont dans une stratégie, au fond, des études de droit très longues, très systématiques, il faut avoir des contenus maximaux. On aura fait le droit de la famille, même si on n'a pas les affaires. Les Américains qui vivent dans un autre monde où le droit ne se résout pas, ne peut pas se tenir dans une bibliothèque d'un État ou dans une bibliothèque de 18 États. Les Américains ont dû penser autrement leur formation. C'est-à-dire qu'ils ont dû insister plutôt sur les méthodologies, les manières de raisonner, plutôt que sur l'exhaustivité des données. Je trouve très intéressant de se dire bon, on doit passer par un certain nombre de thèses, un certain nombre de matières, mais dans les matières, on ne va peut-être pas tout inscrire, on ne va peut-être pas obligé de tout enseigner. Les choses sont plus formatées que d'autres. Et apprendre à raisonner comme un journaliste. Voilà. Mais je crois qu'on va être plus
Alors, ce qui est stimulant, c'est que nous, on nous réduit quand même le nombre d'heures de cours. C'est plus 36, c'est 33, etc. Et donc, moi, par exemple, je fais des leçons. C'est-à-dire que je prends un thème en 3 heures que les étudiants ont préparé. Et je ne vois pas tous les thèmes. Ils doivent préparer ce que je n'ai pas eu le temps de voir. Et c'est eux qui le résument après, qui le restituent. Mais ça, c'est, je dirais, peut-être un des avantages d'avoir moins d'heures de cours. C'est forcément.
C'est pour ça qu'il faut se battre pour une réduction des heures.
Oui. Mais après, c'est un aussi.
Donc en conclusion, c'est plus court. Ça coûte beaucoup plus de cette journée.
Alors, il faut des mètres. On est payé combien? Online.
Mais il me semble quand même qu'il y a un certain consensus autour de l'idée que ça ne soit pas n'importe qui, ni avec n'importe qui. C'est quand même rassurant pour tout le monde.
Bien, merci. Moi, ce qui m'a plu, c'est que la fin retourne au début, parce que j'ai vraiment la curieuse impression que vos histoires de culture juridique américaine-française rejoignent tout à fait le problème de ce qu'il y a abordé sur modèle jurisprudentiel et modèle législatif.